des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, deux écrivains qui interrogent l'histoire et sa violence à travers la littérature, l'histoire la plus contemporaine et la plus marginale, tropicale pourrait-on dire, mais les tropiques sont-ils un pays des marges? On le verra avec Natacha Apana. Et l'histoire la plus ancienne et la plus mythique, voire mythologique, puisqu'il s'agit de la prise de la Bastille avec 14 juillet d'Éric Villard. Bonjour Natacha Apana.
Bonjour.
Vous publiez donc Tropique de la violence chez Gallimard, qui souffre sous le signe du malheur, dans une île du malheur, sous ses habits de lumière. Cette île, c'est Mayotte. Elle va servir de cadre à l'histoire de Moïse, un nourrisson aux yeux verrons, dont la mère est l'une de ces femmes qui tentent de la traverser depuis Anjouan aux Comores jusqu'à Mayotte sur ces bateaux qu'on appelle Kwassa. On en parlait d'ailleurs avec Ali Zamir l'autre jour, le jeune auteur d'Anguille sous roche, dont l'héroïne se noie entre Anjouan et Mayotte. La vôtre, elle ne se noie pas, Natacha Apana, mais elle laisse un enfant à une femme qui s'occupe d'elle à l'hôpital, une Française qui s'appelle Marie. Et c'est la première voix de ce roman où vous faites intervenir cinq personnages qui chacun va raconter son histoire de la violence. Il est donc question de Moïse, l'enfant qui grandit et trouve en face de lui bientôt la violence, la prison, de Bruce, chef autoproclamé du quartier le plus défavorisé de la ville, surnommé Gaza, et bien d'autres. Votre roman fait se succéder différentes voies narratives. Tropique de la violence, par son titre, Natacha Apana, matérialise une sorte de ligne de fracture spatiale entre la France métropolitaine et ses îles lointaines dans l'imaginaire du lecteur. La force de votre roman, c'est qu'il s'attelle, ce roman, à rendre visible ce territoire pour montrer que précisément ce tropique de la violence n'est pas imaginaire. Et il montre aussi, ce roman, qu'il est révoltant parfois, qu'on peut et qu'on doit se révolter contre certaines situations, surtout lorsque la catastrophe est en marche. Je voulais vous demander, Natacha Apana, le rôle de l'écrivain, est-ce qu'il est d'allumer la mèche de la révolte chez le lecteur en lui faisant passer cette ligne du tropique de la violence?
Je ne sais pas quel est le rôle de l'écrivain, mais je me rendais bien compte, puisque j'ai vécu à Mayotte pendant 2 ans, je me rendais bien compte des limites des récits qu'on nous offrait sur ces pays de marge, sur ces îles-là. C'était toujours des récits très linéaires, très horizontaux, où il n'y avait aucune nuance, aucune chair, et... Je pense que le pouvoir évocateur de la fiction était l'idéal pour essayer de comprendre, pour essayer de saisir l'essence ou la non-essence de ce pays dans lequel j'ai vécu 2 ans. Et je pense que la complexité de cette île ne pouvait se faire entendre ou ne pouvait se faire voir que par la fiction.
Et la notion de révolte, de mettre ce sentiment, cette mèche, comme je le disais, dans le cœur du lecteur, est-ce qu'elle était présente chez vous, puisque vous décrivez quand même une situation et parfois sans faire justement l'économie d'une violence qui est là et que vous dites, que vous écrivez, il n'y a pas cette volonté d'allumer ça dans le cœur du lecteur, de le faire réagir?
La volonté pour moi était vraiment de raconter les nuances, de raconter de façon le plus exhaustive, une façon donc la plus exhaustive possible, les différents destins de ce pays, les différentes ambitions, les différents désirs de ce pays, et aussi de faire en sorte que tous les récits portent l'ombre de l'histoire, parce que ce n'est pas quelque chose qui date d'hier ni d'avant-hier, c'est quelque chose qui date de centaines d'années. C'est une histoire qui dure, qui continue, qui se complexifie et aussi qui, d'une certaine façon, se mélange à notre actualité, puisque l'île de Mayotte connaît tout ce que notre monde connaît. C'est une île qui est un symbole, un symptôme, une sorte d'île laboratoire du déplacement des populations, des défis écologiques et de la question identitaire. Ces questions-là nous habitent tous.
Une histoire qui dure aussi, c'est celle du 14 juillet, Éric Vuillard, Violence et Histoire, aussi chez vous, puisque vous vous intéressez à la prise de la Bastille avec 14 juillet, donc publié chez Actes Sud. C'est une histoire ancienne, moins ancienne que les Gaulois qui reviennent étonnamment dans l'actualité. 14 juillet, c'est le récit d'une des périodes historiques les plus célèbres de l'histoire de France, si ce n'est la plus célèbre, la prise de la Bastille, le début de la Révolution française, la fin de l'Ancien Régime. C'est un court récit qui donne à revivre cet événement à travers les corps, les voix, les noms du peuple de Paris. Il y a les heures qui précèdent cette prise, les heures qui suivent cette prise de la Bastille. C'est une révolution en train de se faire. Et pour ce faire, il faut des hommes, il faut une foule, il faut des cris, il faut un pont-levis, il faut des morts, il faut des héros, et il faut des noms. Ces ombres, Natacha Appana en parlait, ces ombres familières aperçues au fond d'un tableau, écrivez-vous. Ce livre, il est présenté comme un récit. Est-ce que, Éric Vuillard, vous avez choisi ce terme, flou de récit, pour rester formellement flou, vous aussi, devant cet événement qui projette, écrivez-vous, un je ne sais quoi de fascinant. Vous parlez d'un monde qui se renverse et qui ne pourrait donc peut-être que renverser, quand on veut le décrire, toutes les catégories littéraires.
Bonjour, je ne sais pas si récit est un genre flou, en tout cas ça signifie une crise. C'est que je crois que dans le roman, Natacha Appana parlait de récits verticaux, enfin en tout cas elle voulait faire un récit horizontal, de récit trop linéaire. Je crois que le terme récit justement signifie que peut-être le roman, tel qu'on nous l'a légué en tout cas, a pour tendance, a au fond disons de l'œil comme structure, le fait de mettre en exergue quelques personnages, un héros, et d'avoir une structure narrative relativement simple au fond, qui est hérité de l'Ancien Régime. Et il me semble que, d'autant plus pour écrire le 14 juillet, qui vient couper cette histoire, le terme récit signe le fait que tout à coup, au fond, c'est d'abord le collectif qui entre sur la scène du monde, et que donc le roman, la littérature, doit prendre en charge ce collectif, essayer de faire en sorte qu'il prenne la parole. Et puis aussi que le récit, justement, soit peut-être moins linéaire, soit moins là pour célébrer un ou deux personnages, mais pour montrer un petit peu le bricolage de l'histoire.
Enfin, le roman, la forme romanesque, elle est aussi cannibale, elle a pu emporter dans son torrent, c'est pas forcément le roman Ancien Régime, il y a même eu le nouveau roman. Pourquoi abolir à ce point le terme de roman, Éric Vuillard, pour emprunter le chemin du récit national presque? C'est un mot aussi, c'est une expression très en vogue.
Oui, non, le roman est même au fond une forme qui triomphe au 19e siècle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien sûr une crise qui est interne au roman lui-même. Le mot récit, je crois, justement, signifie cette crise et marque aussi le fait que c'est un certain rapport à la réalité aussi qui sur lequel ce terme en quelque sorte insiste. C'est-à-dire que dans ce livre, au fond, d'une certaine manière, l'imagination telle qu'on la conçoit de prime abord est au fond absente. Je m'appuie sur des sources, donc sur les archives, sur les relations du temps, et ce qui appartient à la littérature, au fond, et que je tâche de faire, c'est d'incarner, de mettre en scène et d'écrire, puisque la différence, enfin, si l'on est écrivain, c'est parce qu'on pense que dans le fait de s'abandonner aux mots ou d'écrire, on découvre des choses qu'on ne découvrirait pas seulement par la recherche elle-même.
Natacha Appana, quel regard vous portiez avant de lire le livre d'Éric Vuillard sur ce 14 juillet, événement historiographiquement puissant?
Je crois que c'était un regard extrêmement banal, puisque c'est un regard généralisé. Et le 14 juillet d'Éric Vuillard m'a permis de rentrer dans les nuances, dans le récit bosselé, le récit avec des creux. J'aime beaucoup une expression qu'il dit, je me suis dit, ça pourrait aller à mon propre texte, qui est une fable amère. Et je trouve que ça, c'est très beau. Et il raconte une fable amère.
Alors, vos deux romans, on pourrait dire qu'ils sont aux antipodes l'un de l'autre, sans faire de jeu de mots ou de projections géographiques sur Mayotte et sur la place de la Bastille. Ils sont différents dans le ton, dans la forme, dans le projet. Et pourtant, tous deux nous font pénétrer dans le chaos d'une violence intérieure qui se réverbère sur l'environnement immédiat, à moins que ce ne soit l'environnement qui secrète peut-être cette violence. Ils s'intéressent aussi à ce qu'on appelle le peuple. Alors, c'est un mot qui aujourd'hui revient bien dans les discours politiques, à gauche comme à droite. Éric Villard, vous écrivez « Paris est désormais au peuple » dans ce 14 juillet. C'est quoi ce peuple que vous avez cherché à peindre dans 14 juillet ? Je vous recite. « À une époque où un peuple se cherche, où il apparaît sur certaines places de temps à autre, il n'est peut-être pas inutile de raconter comment le peuple a surgi brusquement et pour la première fois sur la scène du monde. »
Oui, hein, le peuple, c'est précisément, tout comme d'une certaine façon, l'événement, donc la prise de la Bastille, c'est un concept, c'est un événement lui aussi, le concept de peuple. C'est-à-dire qu'au départ, on a des gens, on a une foule, et puis progressivement, que ce soit dans une journée, ou plutôt en général, c'est un processus au long cours, se forme quelque chose qu'on peut appeler un peuple, c'est-à-dire une forme de conscience de soi, de ses intérêts, et en lutte. Donc, à ce moment-là, je crois, le 14 juillet, pour des questions qui sont liées à ses intérêts immédiats, les gens sortent de leur inertie et deviennent en quelque sorte d'abord une foule, des foules d'abord, puis une foule autour de la Bastille, et ensuite, je pense, un peuple.
Certes, mais foule et peuple, quelle distinction faites-vous ? Parce que c'est vrai que c'est un mot dont on sent que dans votre écriture, il est essentiel, c'est ce mot. Vous parlez de la foule, hein, mais le mot de peuple, vraiment, comme crise d'ailleurs, peuple et crise s'inscrit vraiment en lettres de feu dans ce livre.
Oh, si on veut entrer dans des détails plus techniques, il y a un très beau livre au fond là-dessus, qui est un livre de Sartre, qui a un titre un peu difficile, La critique de la raison dialectique, où il est justement question de comment un collectif se forme. Et je crois que tout simplement, la foule, si vous voulez, on connaît tout ça, elle a des réactions, comment dire, presque automatiques. Vous voyez, quelqu'un fuit devant vous, par exemple, lors d'une manifestation, qui a déjà une forme de foule, d'ailleurs, on peut dire ayant une forme de conscience d'elle-même importante, mais si vous avez une charge de CRS, vous suivez le type qui est juste devant vous, à ce moment-là, c'est encore une foule. Il me semble que la notion de peuple, en quelque sorte, enveloppe celle de foule, puisqu'elle a un projet qui est au-delà même d'une simple revendication. Il s'agit d'une forme de collectivité, tout à coup, qui joue son destin de façon extrêmement vive, ensemble, donc, et qui en a conscience.
Natacha Appana, j'ai l'impression que vous partagez un peu ça, même si c'est dit d'une autre manière. Vous ne parlez pas de peuple, mais vous parlez de tout le monde, l'expression revient. Et je voudrais vous citer aussi, c'est l'histoire d'un pays qui brille de mille feux et que tout le monde veut rejoindre. Et un peu plus loin, ces êtres humains qui se retrouvent sur ces bateaux, ces gens-là, à qui l'on a donné des noms depuis la nuit des temps, esclaves, engagés, pestiférés, bagnards, rapatriés, juifs, boat people, clandestins. C'est aussi un peuple, en fait, que forment ces gens qui partent sur les Kwassa, mais peut-être décrit en termes moins lyriques que chez Villard.
C'est les non-puissants, je dirais. Ce sont des personnes qui n'ont pris ce rien et qui veulent juste arriver à la fin de la journée. C'est ça que ce livre n'est pas du tout écrit du point de vue des puissants ou des personnes qui prennent des décisions, mais vraiment du point de vue des non-puissants. Alors peut-être du peuple ou de la foule ou peut-être de ce groupe de jeunes qui errent dans les rues à la nuit tombée. Mais en tout cas, ce sont des non-puissants.
J'ai dit lyrique, je ne vous ai pas offensé, Éric Villard. Il y a du lyrisme, il y a de l'épopée, en fait, de l'épique.
Oui, d'ailleurs, vous savez, le lyrisme, dans une certaine forme, en tout cas, est héritier du langage de la Révolution française. Donc, en soi, je ne vois pas pourquoi je le récuserais. Mais pour revenir sur l'idée de peuple, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui, tout à coup, penche à l'universel. C'est-à-dire, c'est aussi quand les intérêts d'une collectivité, d'une certaine façon, sont le plus d'égalité, le plus de liberté, qu'à ce moment-là, elle s'accointe à l'universel.
Il y a une citation que j'aimerais bien vous soumettre, je trouve qu'elle résonne bien avec vos textes, une citation de Deleuze, dans L'Image-Temps. Alors, il parle de l'art cinématographique, mais justement, je voudrais votre point de vue d'écrivain, même si Éric Villard est aussi cinéaste. Il dit, Deleuze, il faut que l'art, particulièrement l'art cinématographique, participe à cette tâche. Non pas s'adresser à un peuple supposé, déjà là, mais contribuer à l'invention d'un peuple. Au moment où le maître, le colonisateur, proclame « il n'y a jamais eu de peuple ici », le peuple qui manque est un devenir, il s'invente dans les bidonvilles et les camps, ou bien dans les ghettos, dans de nouvelles conditions de lutte auxquelles un art nécessairement politique doit contribuer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il y a un peuple qui manque en littérature. Où est le peuple, comme disait Michelet ? Natacha Appanah.
Absolument, il y a des voix qui manquent. Je ne sais pas s'il y a un peuple qui manque, mais tout à fait qu'il y a des voix qui manquent. Ce qui m'avait frappé, moi, c'est comment toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu côtoyer, ont une façon d'avoir les pieds, les mains, la tête dans leur quotidien, beaucoup plus que nous. Les théories n'existent pas. Les grandes idées, les grandes pensées n'existent pas. Ce qui compte, c'est la terre. Ce qui compte, c'est que faire de ses mains, que faire de son corps du matin jusqu'au soir.
Le romancier, comme le cinéaste, a-t-il le gage, finalement, de réactiver l'histoire, de lui redonner, vous en parliez, vous parliez du quotidien, des mains de la tête dans le quotidien, Natacha Appanah, de redonner à ce peuple, hein, dont parlait Deleuze, vie et épaisseur, et à l'histoire aussi, de ne pas être dans le mythe, mais dans le corps, dans les pulsions, dans la chair. Au fond, est-ce qu'on sublime trop, parfois, les faits historiques au point de les rendre irréels? Et la littérature, ou le cinéma, hein, on parlait de Deleuze, serait là pour remettre de l'action, de la vie, de la chair dans cette histoire mythifiée. Éric Villard.
Ça n'est pas seulement parce que ce serait la position de l'écrivain ou du cinéaste qui en soi fabriquerait, je crois, du mythe ou, disons, sublimerait les événements. Ce sont des intérêts politiques au long cours, en fait.
Non, mais à l'inverse, en fait. Oui, oui. À l'inverse, l'écrivain serait là pour démythifier.
Oui, ou, démythifier ouais.
ce qui a été construit politiquement.
Mmh. Mais de la même manière, ce qui a été construit politiquement ou par les historiens l'est pour des raisons politiques. Il y a toujours un combat interne même à la politique et à l'histoire. Évidemment, quand Michelet construit dans son histoire de la Révolution française, sa scène du 14 juillet, ceux dont parle Natacha Appanah, c'est-à-dire justement les gens, le tout venant au fond.
Alors, les là, gueux, Paris, comme on disait aussi,
les gueux,
sous
la populace,
l'ancien régime. Voilà.
Donc au fond, à ce moment-là, c'est tout un peuple d'ouvriers, d'artisans, de petits commerçants. Lui est en quelque sorte évacué, puisque Michelet se contente de lui donner en fait une sorte de rôle collectif, il pousse une clameur. Voilà. Tandis que ceux qui ont tout à coup dans son histoire un dialogue, qui prennent la parole, ce sont les députés du tiers-État. Il est donc en train, lui, en tant que républicain, d'établir à des fins politiques, évidemment,
une hiérarchie
et ce que va être la démocratie représentative et sa structure. Et donc il m'a semblé, au contraire, qu'aujourd'hui, dans un contexte justement difficile, flou, où il y a, semble-t-il, quelques réclamations, on devait rechercher dans les archives qui, justement, avaient ouvert le jeu. Et quel était ce petit peuple arrivant au fond à la surface de la vie sociale et dont on a pour la première fois le 14 juillet, non seulement le témoignage, c'est-à-dire la Bastille a disparu, on en a un témoignage physique dans Paris, mais on a des archives.
On va ouvrir le jeu, ou continuer à l'ouvrir avec vous, Éric Villard, et parler de 14 juillet chez Actes Sud. On est aussi avec Natacha Appanah qui publie Tropique de la violence. Éric Villard, vous avez choisi comme premier choix musical Nabucco de Verdi, Le cœur des esclaves. Nous écoutons.
Thank you.
Nabucco de Verdi, Le cœur des esclaves, interprété par l'orchestre et le chœur de l'Opéra d'État de Vienne, sous la direction de Lamberto Gardelli. C'est le choix d'Éric Villard, qui publie 14 juillet chez Actes Sud. Est-ce que je vous fais l'offense de vous demander pourquoi ce choix, Éric Villard ?
Non, pas du tout. Je vous vois d'ailleurs faire des gestes depuis tout à l'heure de chef d'orchestre. Il y a une voilà. Vocation contrariée. Alors pourquoi ? Parce que c'est au fond, au cœur de la grande forme qu'est l'opéra, Verdi qui avait un amour des chants populaires et des musiciens ambulants, on voit bien, fait de l'opéra une autre forme, justement une forme beaucoup plus populaire. Et puis aussi parce que tout simplement, ce chant est d'une profondeur poignante, qu'il est très beau, et il a failli, on le sait, être l'hymne italien, donc c'est un hymne à la liberté, je trouve que pour le 14 juillet, ça fait un écho.
Précisément, et c'est le cœur des esclaves. Est-ce qu'il y a là aussi, dans votre interprétation aussi de ce cœur des esclaves, une façon de rejoindre ce que vous disiez sur Michelet, au fond, de re-hiérarchiser ? C'est-à-dire qu'il y avait, oui, il y avait les esclaves, il y avait les gueux, et en fait, on renverse, et c'est eux qui prennent le pouvoir, et c'est ce qu'on appelle une révolution.
Vous savez, c'est justement le si ça n'a pas été accepté comme hymne italien, c'est parce que c'était un chœur d'esclaves. Donc, à l'époque, ça a été écrit et senti comme une réaction à l'occupation autrichienne. Et donc, plus tard, après, quand il s'est agi ou pas de le prendre comme hymne, les Italiens se sont dit non, il nous faudrait un hymne triomphal. Et au fond, voilà, je crois que c'est un petit peu dans cette figure que les gens se trouvent toujours. Soit dans le cadre de chanter des chants tristes et poignants, soit dans le cadre de prendre la Bastille.
Natacha Pana, le mot esclave hein, est aussi présent hein, dans ce tropique de la violence, aussi, mais investi aussi d'une voilà, une symbolique plus forte que sa simple détermination sociale ou économique.
Oui, parce que le mot esclave est revendiqué. Il est porté comme si il devait se dévêtir de son ancienne signification et revêtir une autre signification, c'est-à-dire une signification de pouvoir, de puissant et être le mot qui retournera l'histoire, d'une certaine façon.
Retournons l'histoire avec 14 juillet, et retournons à l'histoire. C'est un récit d'une des périodes historiques les plus célèbres, l'histoire de France, si ce n'est donc la plus célèbre, le début de la Révolution française, la fin de l'Ancien Régime, avec cette prise de la Bastille. Vous nous donnez à revivre les corps du peuple de Paris, les coups du peuple de Paris, la prise de la Bastille, les heures qui la précèdent, les heures qui la suivent. Tout n'est pas raconté. Ce récit, qui n'est pas là pour atteindre la vérité historique, mais une vérité, une révolution en train de se faire. Et on le disait en introduction, pour se faire, mais il faut des hommes, il faut une foule, il faut surtout des noms. Et je voudrais les citer, Éric Villard. Je ne vais pas vous lire, ça je vous laisserai lire tout à l'heure, mais je vais citer tous ces noms. Page 86, Le Grand, qui était concierge, Le Gros, capitaine, Le Griou, monteur en pendule, Leslin, manouvrier, Masson, le cloutier, Mercier, le teinturier, Minier, le tailleur, Saunier, l'ouvrier en soie, il y a Terrière, il y a Miclet, il y a les frères Moreau, Jean Foutre eux aussi, dites-vous, un doreur, Nus et Oblisque, les Que Dalle, et puis il y en a plein, il y a aussi Ramelet, le vendeur de pinard, il y a Rollo, qui vient de nulle part, un Ravet, de je ne sais où, un Quentin, sans adresse, un Queneau, un Poulet, un Quignon, un Rebar, enfin il y en a plein, je m'arrête là. C'est important, à ce point-là, de redonner les noms à ces gens qui, croyait-on, n'en avaient pas.
Je crois que les noms, le nom propre, le nom de famille est quelque chose en effet d'important. Ça l'est d'ailleurs tellement que dans la grammaire, il a une place très très particulière pendant très longtemps. Les grammairiens n'en ont rien dit. Ils le mettaient au sommet de l'édifice, ils le séparaient des noms communs et puis c'était terminé. Et les linguistes évidemment s'y sont intéressés et ont vu qu'il y avait au fond toute une vapeur de signification autour de chaque nom. C'est ce qui fait d'ailleurs, vous savez, Barthes raconte quelque part que quand Proust a trouvé les noms Swann, Guermantes, il a pu se mettre à écrire la recherche. Et donc, évidemment, les noms, on le sait aussi parce qu'enfant, tous, on a feuilleté, je sais pas, le Bottin, par exemple, pour se chercher un autre nom que le sien. On a joué avec son nom. On écoutait pendant l'appel à l'école, par exemple, les noms des autres. Donc oui, je crois que les noms ont une force. Et puis, là, en l'occurrence, il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, de la première fois où, dans l'histoire, pour un événement d'importance, on a une liste de 954 noms, avec des doublons, bien sûr, mais donc de 954 noms qui sont ceux que vous dites, c'est-à-dire, au fond, les noms du petit peuple de Paris.
Et cette liste, elle est où? Enfin, comment vous avez travaillé, en fait, pour les obtenir, ces 900 et quelques noms?
Alors, elle se trouve, alors il y a des livres d'histoire, plutôt au 19e, qui s'intéressaient à ces choses qu'aujourd'hui. Autrement, on les trouve aux Archives nationales, où, puisque une commission des vainqueurs de la Bastille s'est réunie à de nombreuses reprises, les gens se signalaient avec des témoins et entraient ou non.
Au panthéon, voilà. Au panthéon du peuple. C'est étrange, les noms, on dirait qu'on touche quelqu'un. Vous avez cette très belle formule, et c'est vrai que la notion de chair est absolument fondamentale, du toucher, du contact aussi dans ce livre.
Oui, tout à fait. Je crois que ce qu'il y a de très fort, c'est que quand on lit une archive, quand on tombe sur une vieille carte postale quelque part, et qu'on trouve un nom, parfois un métier, une date de naissance, pas grand-chose, ou sur une carte postale, quelques mots à un intime, on est aussitôt ému, et je trouve plus que n'importe quel roman, au fond. Il y a là quelque chose d'injuste pour la littérature. La réalité sonne évidemment toujours mieux. Elle indique, comme en elle-même, il y a une pente vers le monde qui est tout de suite plus abrupte et plus grande.
Ça fait rire, Natacha Apana.
Ah oui, je trouve que c'est tellement juste. On essaye, mais c'est la réalité qui nous porte le plus.
Alors, 14 juillet offre non pas un tableau de cette longue journée qui a été ce mardi 14 juillet 1789, mais une partie seulement de ce tableau, celle des ombres familières aperçues au fond d'un tableau, qui font partie du décor de la peinture et de l'histoire, mais qui donnent à l'esthétique, au récit du tableau, toute sa profondeur. Ce récit, Éric Villard, est découpé comme les détails d'un tableau. Insomnie, la foule, le pont-levis, une planche au-dessus du vide. La notion de tableau était à ce point importante, ce basculement entre ce qu'on appelle un tableau historique et puis le tableau pictural. Vous parlez de Bruegel aussi un moment.
Je crois qu'on écrit toujours au croisement de plusieurs choses. Enfin, on sent, l'écriture autour d'elle, au fond, d'autres arts, d'autres manières de concevoir le monde. Donc oui, la peinture en est un. Elle en est un en plus à au moins un titre. C'est que, en l'occurrence, pour ce qui concerne le peuple, il me semble que la peinture est presque venue avant la littérature. Et justement, Bruegel, enfin ce qu'on peut appeler la grande tradition démocratique de l'Europe du Nord, au fond, nous montre des silhouettes égales, indistinctes. On sait que Bruegel aimait se déguiser. Alors, on en est encore au déguisement et pas tout à fait à l'enquête. Mais il se déguisait pour aller donc parmi les paysans, croquer en fait leur manière. Et pas seulement d'ailleurs pour, en gros, les dessiner, mais aussi par plaisir, je crois. Donc, on a là un premier rapport, au fond, une première consanguinité qui me plaît.
On va vous écouter lire un extrait de 14 juillet, je vous laisse lire, Éric Villard.
Un camarade saute à son tour. Ils sont deux à présent. Le type qui vient de tomber du ciel s'appelle Aubin Bonnemère. Il était déjà là tout à l'heure, secourant l'ambassade de Thuriot lorsqu'elle fut un peu secouée par la foule devant la Bastille. Aubin est de Saumur. Il a 36 ans. Son père est marinier. Il a vécu en bord de Loire. Il a épié les bancs de sable qui se déplacent chaque année, les brumes qui rongent les rives. Mais il n'y a pas que Louis et Aubin à jouer les équilibristes. Il y a 8 ou 10 autres hussards sur ce toit. Il faut être attentif à ces vagues présences, contours, profils, à ces locutions dont tout récit se sert pour mener son lecteur. Gardons-les encore contre nous un instant, ces 8 à 10 autres, par la grâce d'un pronom personnel, comme de tout petits camarades, puisqu'eux aussi, ils courent sur le toit. Ils font peut-être les marioles, ils dansent sur l'horizon. Tournez dans la cour, et là, ils disparaissent, on les abandonne définitivement, on ne les reverra plus jamais. Ce sont les petits bonshommes de Bruegel, ces patineurs que l'on voit de loin depuis l'enfance, ombres familières, aperçues au fond d'un tableau, sur la glace. Ils nous font pourtant un curieux effet de miroir depuis leur brume, on se sent plus proche d'eux que de ceux qui campent au premier plan. Ce sont leurs silhouettes que l'on scrute, que nos yeux supposent, que le brouillard mouille, et si nous rêvons, il n'y a plus qu'eux.
Si nous rêvons, il n'y a plus que... On a l'impression, parfois, de vous voir vous inviter et vous mettre à commenter le ridicule de telle situation ou la beauté d'un geste, de parfois prendre cette situation et nous la donner à voir avec un vocabulaire contemporain. Par exemple, cette histoire, mais le pays, lui, n'est pas pauvre, il s'est même enrichi, ce sont les salariés qui triment pour rien, les artisans, les petits commerçants, les manœuvres. Enfin, il y a les chômeurs, tout un peuple inutile, affamé. Avec ce mot chômeur, qui n'a rien de 18e, même s'il existait, mais qui ne veut pas dire la même chose qu'aujourd'hui.
Oui, alors, au fond, tout d'abord, qui pourrait parler, hormis moi, de ce jeu qui intervient, c'est de toute façon bel et bien moi qui suis en train d'écrire le livre. Et il est, en un sens, toujours curieux. Enfin, ça fait partie des conventions littéraires qu'on peut tout à fait admettre, hein, par ailleurs. Mais il est curieux, surtout écrivant sur un événement historique, en quelque sorte aussi chaud, sur lequel j'ai un point de vue que je suis en train, au fond, de mettre en scène. Ce serait curieux de ne pas intervenir par moment directement. Et puis, je crois que c'est une forme de loyauté. Ça permet de même couper vos... de lyrisme, ça le coupe un peu, ça le froisse, ça rappelle au lecteur au fond qu'il y a quelqu'un derrière. Alors quant à l'anachronisme, vous savez, quand, je sais pas, Louis Blanc écrit sa Révolution française, tout le style de Louis Blanc est anachronique. On parlait de Michelet tout à l'heure, c'est pareil, le lyrisme michelettien est anachronique, c'est le style donc lui-même l'est. Alors on peut effectivement, chômeur n'avait pas le même sens au 18e, mais lorsqu'un économiste se saisit du 18e et travaille dessus, il parle bel et bien de chômage. Donc au fond, je crois que là encore, c'est une forme de loyauté pour le lecteur aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on regarde la fin du XVIIIe siècle français depuis nos jours, on ne le voit plus comme Michelet ou Louis Blanc, on s'aperçoit le mot chômage fait pour nous relief. La dette de l'État fait pour nous relief. Et je crois que donner un autre nom, un nom folklorique ou ancien à ces choses, eût été un peu curieux.
Natacha Apana.
Oui, je voulais juste... poser une question plutôt de technique. À un moment donné, c'est vrai que le jeu s'insinue. Ça m'a surpris, mais ça m'a beaucoup plu. Je voulais savoir si ce jeu-là, il était un jeu intentionnel ou si ce jeu-là est venu malgré vous.
Alors, il est venu, au fond, malgré moi, il s'est imposé. Et comme ça fait plusieurs livres, j'y ai réfléchi, évidemment. Et il m'a semblé qu'il n'était pas utile de le retrancher, au fond, qu'il s'était imposé de lui-même et qu'il a plusieurs statuts. Il peut être un peu... Il y a des pièges aussi dans ce jeu. Il est malicieux, parfois. Il peut avoir envie de piquer. Mais au fond, je crois que voilà, c'est une forme de présence. Il y en a d'autres. Le roman ou la littérature peut utiliser d'autres manières de faire sentir ou de faire s'évanouir la figure de l'auteur, disons.
Il y a une jubilation à intervenir, comme vous le faites, avec ce jeu ou avec ce on, ou avec des observations comme « Dieu, que c'est beau, un fusil, que c'est vertical, on dirait un jouet, un outil, un sceptre ». Il y a, une volupté à intervenir comme ça dans un tableau qui pourrait être sacralisé, qui est la prise de la Bastille, de se dire tiens, je me projette là-dedans, hein. Voilà, en tant qu'auteur, et je m'amuse.
De toute façon, je crois qu'on écrit toujours dans un certain penchant selon les passages que l'on est en train d'écrire. Je parle pas de l'humeur du jour. On est entraîné
le corps
dans l'écriture. Voilà,
le
bien
corps
sûr,
est important. C'est la température du corps.
C'est lié, ouais. Je crois, au corps justement. C'est cette tonalité affective. Au fond, on peut être en colère, on peut être dans une colère froide. Pour en donner des exemples célèbres, on voit que chez Stendhal, par exemple, la question, il y a stylistiquement quelque chose qui est toujours très rapide, qui fouette les. En même temps, disons que Julien Sorel doit prendre aussitôt, en quelques instants, la décision de saisir ou non la main de Madame de Rênal. Le style lui-même de Stendhal est taché. C'est un style qui, en quelque sorte, est lié à la position sociale de Stendhal, au monde dans lequel il vivait, mais aussi à son rapport à l'autre. Et donc, je crois que voilà, ce que vous évoquez est lié en partie à ça.
J'interrogeais Natacha Apana tout à l'heure sur est-ce que le rôle de l'écrivain était d'allumer la mèche dans le cœur du lecteur. Je pourrais vous poser la question à vous, Éric Vuillard. D'ailleurs, il y a un point commun entre vos deux livres. Il arrive que vous demandiez au lecteur d'imaginer, de faire l'effort de voir un peu plus. Il y a des gens partout. Il faut imaginer ça. Il faut imaginer un instant le gouverneur et les soldats de la citadelle jetant un œil par-dessus les créneaux. Il faut se figurer une foule qui est une ville qui est un peuple. Il faut imaginer leur stupeur. Et là, je passe à Natacha Apana. Il faut me croire. De là où je vous parle, les mensonges et les faux-semblants ne servent à rien. Il faut quand même aiguillonner le lecteur, pour chacun de vous deux, le mettre à... Voilà, vous écrivez sur le 14 juillet aujourd'hui, Éric Vuillard. C'est pas anodin.
Je crois que je l'entends aussi bien quand vous le citez chez Natacha Panna comme une sorte de. Il y a là, au fond, de manière éruptive et intuitive, je pense, quelque chose comme un impératif que l'on se dit à soi-même et que du coup on adresse aussi aux autres, puisque la littérature est une chose qui est adressée.
Natacha Panna, il faut imaginer. Il faut me croire.
Là, vous me permettrez de ne pas être d'accord avec tout ce qu'on a dit, parce que Tropique de la violence est un livre, en tout cas c'est le premier que j'écris, où je me suis sentie complètement absente, où j'ai ressenti que vite moi-même, auteur, écrivain, tout ce que vous voulez, je devenais insupportable si je rentrais dans ce texte. Et ce « il faut » du début est un « il faut » très doux. Il n'est pas impératif, il est accrocheur certes, mais il est presque fantomatique ce qu'il faut. Il est fleur.
Il fallait se retrancher en fait.
Voilà, c'est
pour
ça.
Pour moi,
absolument.
Ouais. On va s'engouffrer, on va visiter, on va passer la ligne, hein, comme les marins qui franchissaient l'équateur, si mes souvenirs sont bons. Il y avait une fête, il y avait un rite initiatique, hein, pour ceux qui faisaient pour la première fois. Donc on va passer la ligne de ce tropique de la violence avec vous, Natacha Panna. On reviendra évidemment sur le 14 juillet et sur la fin du livre, cette espèce de message, d'injonction cachée d'Éric Vuillard. Et je vous poserai la question aussi, Natacha Panna. On écoute d'abord votre choix musical, Come Away With Me de Norah Jones.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop.
Come Away With Me de Norah Jones, c'est votre choix, Natacha Panna, choix musical.
Encore cette notion de douceur, parce que je savais que j'allais m'attaquer à quelque chose de très violent. Quand je l'ai écrit, c'était l'année dernière, nous vivions déjà une époque très violente, notre monde est gorgé de violence. Et pour commencer ce livre, pour commencer cette voix de Marie, cette femme qui a été la mère de Moïse, je voulais quelque chose de très doux, je voulais quelque chose d'éthéré et de presque fantomatique, puisqu'elle est elle-même un fantôme.
Oui, elle parle alors qu'elle est morte.
Oui, elle n'est pas la seule. Bruce aussi parle alors qu'il est mort. C'est quelque chose qui pour moi a été important. Parce que souvent, on dit qu'en fiction, on peut tout faire. On peut faire parler les morts, on peut faire parler les arbres. Et c'est un piège, hein, parfois. Et j'ai trouvé, moi, Mayotte, un pays où la résilience existe beaucoup, la présence des morts, puisque sur les plages de Mayotte viennent mourir des centaines de personnes, puisque parfois ils réussissent arriver sur les côtes, dans les Kwassas, mais parfois non, il se noie dans le lagon. Et cette présence-là est intégrée à la vie. L'impalpable, et l'indicible et fait partie du quotidien. Et c'est ça que je voulais donner à voir.
Alors, Tropique de la violence, donc, qui paraît chez Gallimard, qui est votre nouveau roman, est né des deux années durant lesquelles vous avez vécu à Mayotte. Vous y êtes revenu aussi pour écrire ce livre. Vous avez été frappé par tous ces enfants qui n'allaient pas à l'école. On aurait dit une île aux enfants, avez-vous déclaré. Tout commence par une adoption, par une blanche de 33 ans, infirmière, donc à l'hôpital, d'un bébé de quelques jours, prénommé Moïse, qui, peu à peu, va grandir et être livré aux jeunes malfrats, voyous, brigands, qui tiennent les quartiers. Un meurtre est commis, on découvre avec vous Mayotte dont on parle. Effectivement, il y a des milliers d'articles, mais on n'en a jamais eu un tel tableau, pour reprendre un mot cher à Eric Villard. Ce monde interlope de la drogue, le chimique, il s'appelle ça comme ça, les vols, les viols aussi, pages extrêmement violentes, même si elles sont toutes en ellipse, toutes en écart de conscience aussi. Une mafia adolescente, les politiciens, un inspecteur de police, les ONG aussi, la prostitution, le pouvoir des blancs, la prédation. Mais la particularité de ce texte et sa force, Natacha Appanah, c'est que vous faites alterner les points de vue par des personnages, on le disait, qui pour certains sont déjà morts. C'est pas d'ailleurs sans faire écho à un autre livre que vous publiez parallèlement, Petit éloge des fantômes, cette nouvelle qui donne à partager les souvenirs d'une enfant, cette fois-ci à l'île Maurice, où vous avez grandi. Tropique de la violence, c'est un roman polyphonique, comme on le dit, avec ses cinq voix qui témoignent, qui se relaient. J'ai l'impression que, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais que cette structure, le fait de se partager, de prendre chacun à son tour la parole, a été choisi parce que vous ne vouliez pas, en tant que narratrice ou auteur, empiéter sur la vérité de chacun. Et en effet, le narrateur, la narratrice est complètement absente.
Oui, c'est un livre que j'ai commencé avec une voix, la voix de Marie. J'ai d'ailleurs dans mes tiroirs un roman qui raconte complètement la voix de Marie. Mais je suis retournée l'année dernière à Mayotte pour essayer de valider cet imaginaire, pour essayer de valider des parfums, valider une peinture, valider des couleurs. Et j'y suis restée quelques semaines. Mais moi, je n'ai pas enquêté. J'ai fait tout sauf enquêter. J'étais juste là. Parfois, je passais la journée avec soit des pompiers ou soit avec ces jeunes-là, sans carnet, sans crayon, parce que justement, je ne voulais pas être insupportable. Je ne voulais pas, moi, arriver avec mon statut confortable. J'avais un visa, j'avais un billet retour, j'avais un toit. Je voulais vraiment, même si je sais que je n'en étais pas capable, incarner l'autre.
Et qu'est-ce que ça change, Natacha Appanah, de prendre des notes ou non, enfin dans
je voulais
ce
mot
me insupportable
faire,
que vous répétez.
Je voulais
répétez.
Me faire la plus invisible possible. Je voulais me faire oublier.
Et comment on valide? Alors, vous parlez de valider des couleurs, valider des impressions, valider des parfums. Comment on valide sans notes?
Mais parce qu'on sait dans son cœur que c'est vrai. On sait sur sa peau que ce qu'on a pensé, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a écrit, c'est vrai.
Vous comprenez, Eric Villard, cette idée de vous qui avez plongé dans les archives pour les besoins de ce 14 juillet, cette idée de valider par la peau. Il y a eu ça aussi dans cette peinture du 14 juillet, une validation de coloris, de...
En tous les cas, bon, le j'avais par exemple des cartes de Turgot, des cartes anciennes de Paris. Alors le fait de se promener dans le Paris aujourd'hui et d'essayer de comprendre comment était le Paris de jadis et de le faire, disons, d'une façon un peu, pas seulement ordonnée, mais aussi confuse, naturelle, je peux le saisir, mais ça n'est pas du tout la même situation. Après, non, ce qui m'intéresse plus, c'est le rapport entre l'archive ou l'enquête et des formes plus désordonné ou en retrait, au fond, je le comprends bien, c'est-à-dire que l'archive aussi peut, pour d'autres raisons, au fond, qui sont pas là des raisons sociales, mais étouffées, c'est-à-dire à en savoir trop, on peut ployer sous le document, il faut donc, et c'est ce qui distingue, mais les historiens doivent faire ça aussi, d'ailleurs, je crois, à un moment, se débarrasser des documents, en quelque sorte, et plonger dans l'écriture, si bien que quand on choisit une archive plutôt qu'une autre, il entre dans ce choix tout un tas d'éléments qui n'ont rien à voir avec la rationalité.
cette idée de ne pas étouffer, vous parlez souvent de « je ne voulais pas être insupportable », c'est ça qui a guidé cette écriture,
Natacha. Absolument, je ne voulais pas moi-même étouffer et je ne voulais pas les étouffer. Et à la fin de ce séjour, je me suis dit « mais ce que je fais n'est pas juste, ce que je fais n'est pas, non pas exact, mais n'est pas sincère, puisque pour dire la sincérité de ce pays, il faut donner la place à tout le monde ». Et je me suis rendu compte aussi, lentement, que ce que je voyais devant moi était comme une tragédie grecque, qui se déroulait dans un théâtre antique avec un chœur et avec des voix qui se répondaient. Et c'est pour ça que j'ai choisi, je pensais que c'était la façon la plus juste en tout cas, de mettre tour à tour ces cinq personnages qui se disent et qui se racontent et qui se répondent.
Alors on va écouter, grâce à vous, Natacha Apana, Marie, qui est donc cette première morte qui s'exprime et qui raconte son histoire, c'est au début du livre.
Parfois, quand je le vois avec sa chemise à fleurs, son ventre en gouttes d'huile, quand je surprends son regard de chasseur sur les jeunes femmes noires, j'essaie d'imaginer le Patrick qui était arrivé à Mayotte il y a 15 ans, avec femme et enfant. Avait-il cette odeur de cigarette, de sueur et d'eau de Cologne sur lui? Avait-il déjà fermé son cœur et sa tête? Imaginait-il passer ses vendredis soirs à la discothèque Ninga, assis comme un nabab, entouré de jeunes comoriennes et malgaches qui se parfument le sexe au déodorant? Avait-il au moins essayé de résister ou avait-il tout envoyé balader quand il avait compris le pouvoir qu'a un homme blanc ici? Mais je ne le juge pas. Ce pays nous broie, ce pays fait de nous des êtres malfaisants, ce pays nous enferme entre ses tenailles et nous ne pouvons plus partir. Le téléphone sonne et on m'annonce que les pompiers ont réceptionné deux kwassas sanitaires. Je pose mon livre, je prends une grande inspiration. Ce sont ceux que je crains le plus. Les kwassas sanitaires transportent des malades, des vieux, des femmes enceintes, des enfants handicapés, des blessés graves, des fous, des brûlés. Ils font la traversée entre Anjouan et Mayotte pour se faire soigner. J'ai vu des femmes avec des cancers tellement avancés qu'ils n'existent plus en métropole que dans les livres de médecine. J'ai vu des grands brûlés à la peau toute pourrie, des bébés morts depuis plusieurs jours, mais toujours dans les bras de leur mère. Des hommes aux jambes sectionnées par des requins.
Merci Natacha Apana, c'est un extrait de Tropique de la violence, votre nouveau roman qui paraît chez Gallimard. J'ai l'impression quand je lis ce texte qui commence par cette phrase dont on a parlé, « il faut me croire », j'ai l'impression qu'à chaque fois, l'histoire que vous racontez et l'histoire contemporaine de Mayotte est menacée par la fiction. Il y a un travail que vous faites sur les réalités parallèles. Par exemple, le quartier Kaweni est renommé le Gaza de Mayotte. L'un de vos personnages évoque le petit Syrien, Eilan, sur les plages turques, en se disant « j'espère que ça arrivera en fait, chez nous, puisque en fait, il y a des tonnes d'articles, mais personne ne fait rien. J'ai l'impression de vivre dans une dimension parallèle. » Il y a les morts qui se mettent à parler, et on a aussi l'impression qu'il y a moins d'écart finalement entre un mort et un vivant qu'entre un riche et un pauvre, ou un noir et un blanc. Et ce titre aussi, Tropique de la violence, définit Mayotte comme une dystopie, quoi, une utopie négative. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous essayez de lutter contre cette histoire que vous voulez raconter et la fiction qui viendrait finalement rendre incrédible tout ça, d'où le « il faut me croire » de vos personnages.
Je ne sais pas si j'essaye de lutter, mais en tout cas, je savais que j'étais en train de travailler avec un matériau extrêmement mouvant, qui était en perpétuel mouvement, qui était comme ça aux prises avec l'actualité et aux prises avec l'histoire, avec l'ombre de l'histoire. Et j'avais envie que tout ça ne glisse pas tout à fait entre les doigts. On a l'impression que toute cette histoire-là qui se passe de façon si lointaine nous glisse entre les doigts. Et je voulais absolument refuser ça. C'est pour ça, à chaque fois, certains personnages s'insinuent comme à leur insu. L'actualité s'insinue avec leur voix. Le Gaza de Kaweni est réel, et n'a pas été inventé. Je suis sûre que la personne qui l'a fait ne se rendait pas compte des implications
Oui, charrié de, par le nom.
Exactement.
On parlait de l'importance des noms avec
absolument. Il sait juste que Gaza est un quartier pauvre quelque part sur Terre.
Donc il y a Bruce qui va s'exprimer, hein, qui est le caïd. Il y a Olivier, il y a un inspecteur de police aussi. Marie, on en a parlé, et Moïse, hein, le personnage principal, celui qui va tuer, vraiment celui qui prend tout le poids du monde, tout le destin d'ailleurs, avec cette idée de filiation du malheur par la mère. Comment vous avez travaillé, Natacha Apana? Vous parliez tout à l'heure de valider, du besoin de valider des couleurs, de valider des parfums, des sons, pour ne pas avoir ce langage de blanc. Ça revient souvent dans ce texte. Les gens qui ont la peau aussi noire que moi, mais dont les paroles sont blanches. Heureux est un mot de blanc. Il y a des mots de blanc et des morts de blanc. Hein. Vous dites que Marie est... qui est morte d'un AVC, a eu une mort de blanche. Comment vous avez travaillé la langue de votre roman pour ne pas écrire un roman sur les Mahorais avec un langage de blanc?
Oui, ça m'a pris 7 ans.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà.
Ça m'a pris toutes ces années. Et en effet, à chaque fois que je travaillais sur une version du roman, je me rendais bien compte qu'il fallait que je me débarrasse du maquillage langagier. Et en rencontrant ces jeunes-là, en les écoutant parler, en écoutant parfois ce qu'ils me disaient moi, justement, en me renvoyant mon côté un peu insupportable, mon côté étouffant, mon côté comparant beaucoup de choses, leur lançant des théories. Et en fait, je me rendais compte qu'il fallait que je sois justement le plus brut possible, le plus sincère possible, le plus juste possible. Et chaque voix, si vous voulez, est intimement liée à la mémoire et à l'histoire du personnage. Ce n'est que comme ça que j'ai pu les attraper, d'une certaine façon.
Je voudrais qu'on termine avec vous deux sur une question. Je vais d'abord citer Natacha Apana. J'ai réalisé que j'avais à peu près l'âge de ma mère quand elle avait débarqué sur cette plage de sable noir encerclée de baobabs. Avait-elle eu peur dans la nuit pendant la traversée? Est-ce que j'avais pleuré? Savait-elle qu'il y avait un creux dans les baobabs dans lequel elle aurait pu me glisser? Est-ce que c'est ça le sens de vos livres à tous les deux, où on écrit pour quelque chose se glisse entre les grandes pages d'histoire, entre les zones d'amnésie collective, et des choses qui peuvent nous libérer, comme chez Villard? Et là, je terminerai avec vous, Eric, c'est le dernier chapitre. On devrait parfois, lorsque le temps est par trop gris, lorsque l'horizon est par trop morne, ouvrir les tiroirs, briser les vitres à coups de pierre et jeter les papiers par la fenêtre. Vous faites référence aux papiers de la Bastille qu'on disperse, hein, que le peuple disperse. Ce serait beau et drôle et réjouissant, nous les regarderions tomber, heureux, et se défaire, feuilles volantes, très loin de leur tremblement de ténèbres. Et on en revient au début de l'émission. Est-ce qu'il y a chez vous aussi la volonté, vous écrivez ces livres en 2016, sur la Bastille, Natacha Apana, c'est Mayotte, et c'est une situation qui dure, mais on est, qui dure toujours en 2016, vous parlez d'une catastrophe à venir. Est-ce que vous écrivez aussi, est-ce que c'est ça la littérature, provoquer une conscience, et même, pourquoi pas, une violence chez le lecteur? Eric Villard.
Il me semble que la littérature, de toute façon, accompagne quelque chose qui a été et qui est toujours un mouvement émancipateur, au fond, depuis qu'elle apparaît comme littérature, et qu'elle se distingue de ce qu'ont été les hommes de lettres, c'est-à-dire, au fond, à la fin du 18e, c'est-à-dire qu'elle est adressée aux autres, et qu'on le voit, elle retravaille sans cesse sa forme pour essayer de la rendre, au fond, adéquate à la fois à un mouvement social, mais surtout à la réalité sociale telle qu'elle est. Alors ceci, pour répondre à votre question, concernant les papiers qui volaient.
Et la situation contemporaine.
Et la situation contemporaine, c'est que je crois qu'il y a effectivement, lorsqu'on a quelques photographies et quelques films d'insurrection réussie ou qui s'introduisent dans les lieux du pouvoir, on voit très souvent sur les photographies des papiers en l'air et on a dans le même temps des visages heureux et joyeux, c'est-à-dire qu'il y a bien une forme de jubilation qui accompagne tout ça. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une période où les asymétries, où la symétrie sociale est très forte, où l'inégalité est très marquée, au fond, on sent bien que l'égalité exige de nous davantage.
Natacha Apana, sur cette conscience, cette violence que provoque la littérature.
Sur cette violence, ce que j'aimerais, moi, c'est que les ces débats-là, parfois, sont très exotiques pour nous, et je voudrais les désexotiser.
Grâce à la fiction.
Grâce à la fiction, exactement. Rendre les récits plus proches de nous et les désexotiser.
Vive le désexotisme, voilà. Et vive la Bastille, ou sa prise. Merci Éric Villard, merci Natacha Appana.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de vos livres, Tropique de la violence, Natacha Appana, c'est chez Gallimard. 14 juillet, d'Éric Villard, c'est chez Actes Sud. À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec livrehebdo.fr. Nous sommes cette semaine avec Élodie Marillier de la librairie L'Arbre à Lettres, 62 rue du Faubourg Saint-Antoine. C'est à Paris, dans le 12e arrondissement. Bonjour Élodie Marillier.
Bonjour.
Et vous êtes venue avec un gros livre passionnant, Une singularité nue de Sergio Della Pava. C'est aux éditions du Cherche Midi, dans la collection, très belle collection, L'O 49. C'est traduit de l'anglais, hein, aux États-Unis, par Claro. C'est paru en 2008, hein, d'ailleurs, aux États-Unis. C'est un roman qui a été porté au nu et qui arrive enfin chez nous.
Ouais, publié à compte d'auteur et qui a connu un extraordinaire succès par la suite. Donc, c'est un premier roman aussi inattendu qu'époustouflant, vraiment. Une très grande réussite. Donc, on est avec un avocat qui s'appelle Kazi. Pourquoi? Parce que sa mère, à la maternité, on lui demande « Est-ce que vous avez choisi le nom de l'enfant ?» Elle a dit « Kazi ». Et ça y est, ils retiennent ça. Donc, il s'appelle Kazi, est avocat à New York, il vit à Brooklyn. Il est engagé, de son point de vue, dans une lutte du bien contre le mal. Donc, bien sûr, lui, il est du côté du bien. Il est du côté de ceux qui sont arrêtés, traînés, et puis qui sont broyés par la machine judiciaire. Il essaye de les sauver les uns les autres. Il a un collègue de travail qui s'appelle Dane, mais lui, t'es un obsédé de la quête de perfection et qui a plutôt des idées un peu incongrues. Là, en l'occurrence, il se dit la lutte contre le bien contre le mal, ça va pas le faire. Faut qu'on réussisse à marquer l'histoire, qu'on se souvienne de nous. Donc, on va réussir à quelque chose de parfait. Qu'est-ce qu'on peut réussir de parfait? Par exemple, c'est un crime parfait. Donc, ils doivent récupérer de l'argent. Il va y avoir un échange de drogue contre de l'argent, donc de l'argent sale. Donc, il n'y aura pas de poursuite. On ne va pas réclamer cet argent. Donc, il faut qu'ils montrent le plan parfait pour réussir le coup parfait.
Et ce n'est pas pour autant un simple thriller, hein, on est d'accord?
Non, c'est loin d'un thriller. C'est plutôt une espèce de roman-monde vraiment complètement total. Il y a beaucoup d'humour. Il y a des réflexions presque de nature philosophique, mais toujours avec un petit peu un décalage second degré, assez amusant. Il y a aussi une réflexion sur ce système judiciaire, sur la folie américaine. On débarque par exemple à un moment donné dans un hôtel qui est pourvu d'un verger dans lequel les arbres produisent des fruits qui sont parmi les plus gros et les plus succulents. Donc on est constamment surpris, il n'y a jamais de monotomie autour, au long de ces 800 et quelques pages. Même dans la manière de raconter l'histoire, il y a plein de modes narratifs différents, le ton change. Il y a pas mal de péripéties, quelques digressions que le narrateur nous recommande quelquefois de passer si jamais le sujet nous passionne pas. On a la recette des empanadas.
Oui,
on a
délicieux.
Toutes sortes de choses qui font que la lecture tout du long reste surprenante, inattendue, passionnante. C'est donc c'est un premier roman, je vous dis, qui est d'une maîtrise absolument époustouflante. Quoi.
Et un petit mot sur la langue, sur la façon dont c'est écrit.
C'est un style assez vivant, très rythmé, qui produit aussi des images. Il y a des moments qui sont presque des moments poétiques quand il se promène comme ça dans New York. En plus, c'est un New York glacial, pris dans la neige, où il voit des êtres qui lui apparaissent. Il sait plus s'il est en train de rêver ou s'il est en train d'halluciner ou si vraiment ce sont des figures qui apparaissent comme ça dans la ville. Donc, c'est vraiment une œuvre merveilleuse, moi, je vous dis.
Et bien voilà, c'est un très beau mot pour se quitter, Élodie Marillier. Donc, je rappelle les références du livre que vous nous conseillez. Donc, Une singularité nue de Sergio Della Pava. C'est aux éditions du Cherche Midi, dans la collection L'O 49. C'est traduit de l'anglais par Claro. Et c'est un livre, voilà, merveilleux. Vous l'avez dit, vous venez, je le rappelle, de la librairie L'Arbre à Lettres, 62 rue du Faubourg Saint-Antoine, à Paris, dans le 12e arrondissement. Donc, j'invite les auditeurs à en pousser la porte. Vous avez des choses à annoncer. Vous recevez beaucoup de gens.
Là encore, on va recevoir Aiguillard, on va recevoir Étienne Klein, on recevra aussi Bertrand Belin plus tard en décembre, Mathias Sénard, enfin bon.
Tout un programme et il y a un site si on veut s'y référer, donc le site de L'Arbre à Lettres.
C'est l'arbrealettres.com tout simplement.
Voilà. Merci beaucoup Élodie Marillier, à bientôt. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec la participation attentive de Clémence Moulard, Anne-Laure Chanel et Bernard Laniel à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette heure que nous avons passée avec précisément Éric Villard et Natacha Appana.